Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Bonjour à toutes et à tous, chers citoyens de Suisse. Merci de nous écouter si nombreux à l'antenne de Radio Genolier. Nous sommes la classe de la 10VP1. Nous avons choisi de parler du réchauffement climatique, qui est comme une épée de Damoclée prête à tomber aux quatre coins du monde. En effet, il opère très rapidement et il suffit de sortir dehors pour sentir la canicule en été ou le manque de neige en hiver. Pour animer cette audition avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Léonard.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Léonard, pourrais-tu nous rappeler les différents aspects du réchauffement climatique que nous allons aborder ?
Nous allons parler de différents thèmes. Pour commencer, est-ce que dans les régions touchées, les gens partent-ils ou s'adaptent-ils ? Le réchauffement climatique est-il seulement néfaste ? Est-ce que les régions deviendront invivables ? Faudra-t-il effacer certaines îles des planisphères ? Et enfin, est-ce qu'on va prendre l'habitude des canicules et sécheresses ?
J'en frémis rien qu'à la pensée de ces pauvres gens et de ce qu'ils deviennent là où le réchauffement climatique est dangereux. Car en Suisse, le réchauffement climatique est moins dangereux à cause des frontières où il y a moins d'immigration.
Moi de même, je suis terrifiée par le fait que les pays riches comme la Suisse ne subissent que très peu les effets de toutes leurs émissions de CO2, alors que des pays comme le Pérou qui pourraient bien devenir inhabitables. Bon, je m'égare du sujet principal. Nous avons invité Vobé, Paul, Kinan et Sébastien pour nous parler de s'il vaut mieux s'adapter aux nouvelles conditions climatiques de son pays ou le quitter. Des différentes possibilités pour stopper ce dérèglement climatique en prenant l'exemple du village de Pumatala au Pérou. Nous leur laissons la parole.
Bonjour à tous et merci beaucoup Léonard et Emmanuel de nous avoir donné la parole. Aujourd'hui nous allons vous parler de la question s'il faut s'adapter ou partir par rapport aux montées des eaux et de la sécheresse.
Dans ce thème on va discuter des choix que l'on a contre le réchauffement climatique et comment peut-on combattre ces changements et rester dans une région.
Par rapport à ça, j'ai un exemple parfait comme celui du Pérou où ils sont gravement touchés par le réchauffement climatique, mais peu de médias en parlent.
Oui, c'est vrai. Le Pérou est un pays où le gouvernement doit agir immédiatement avant qu'il soit trop tard.
Et pourquoi est-ce si grave au Pérou ?
Pour comprendre, ils font constater qu'au Pérou, il existe trois types de reliefs. La côte, les montagnes et la forêt. Et les trois régions sont fortement touchées par différents changements.
Dans la région de la forêt, des catastrophes comme à Pumatala, environ 200 km de la capitale Inca, Cusco, là-bas, les habitants ne peuvent plus compter sur leur récolte car ils ne savent jamais quand la pluie va tomber. Les saisons de pluie sont complètement déréglées.
Aussi, dans les montagnes des Andines, au Pérou, les glaciers fondent à cause de la température qui augmente et ils vont faire des ravages en créant des glissements de terrain.
Donc une idée pourrait être de retenir l'eau dans la montagne durant la saison humide, puis construire des canaux qui redistribueraient l'eau sur les cultures pendant la saison sèche. Car chaque année, Lima, la capitale du Pérou, manque d'eau pendant plus de 6 mois.
Mais un grand impact environnemental est l'inondation des régions proches de réservoirs ou de barrages. Ces barrages engendrent aussi la mort de forêts et de végétaux.
Lima est aussi touchée par les inondations car elle est tellement proche de la mer à cause des montées des eaux et c'est une ville très à risque.
New York aussi est une ville à risque des inondations qui est prédit d'être inondée dans les années 2050 s'ils ne font pas de mesures.
Les causes majeures sont les ouragans comme en 2012 Storm Sandy qui a été inondé cette ville plus de 45 cm sous l'eau. Cet ouragan a causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts à la ville.
La Hollande est aussi sous risque d'inondation, mais elle a décidé de combattre les montées des eaux. Elle est constamment en train de se battre contre la mer et elle a construit des barrages incroyables.
Oui, c'est vrai. Saviez-vous que ce barrage qu'ils ont construit est un barrage qui fait plus de 32 km de long ?
Eh oui, c'est une des 7 merveilles technologiques du monde. Ce barrage a été utilisé pour garder le mouvement de la marée, de garder la vie animale dans les eaux douces et de protéger Hollande d'être inondée.
Exactement. Il s'appelle The Offside Dyke et il a coûté 800 millions d'euros.
Mais donc ça veut dire que New York devra construire la même chose pour survivre contre les inondations dans les années à venir ?
En quelque sorte, oui. New York devra faire les mêmes développements technologiques, donc construire une sorte de grand mur ou un dam pour protéger les régions de Long Island, Manhattan et d'autres.
Donc on peut constater que des régions avec les moyens choisissent de s'adapter aux conditions climatiques, malgré les conséquences économiques.
Semblablement, les agricultures du monde ne peuvent plus fonctionner à cause des périodes plus fréquentes de sécheresse, telles que les pays qui basent leur économie sur leurs agricultures et leur nourriture.
On aura aussi des conséquences sociales énormes, car qui dit partir, dit trouver un nouvel endroit, alors immigration en masse, qui engendrera un choc culturel.
Je n'ai pas compris. Quelqu'un peut m'expliquer ?
Par exemple, si l'Italie doit partir parce que le réchauffement climatique fait des ravages, eh bien on aura des Italiens en Suisse et en France, etc.
Ah, d'accord.
Pour conclure, dans ce thème, on a vu beaucoup de régions du monde qui sont gravement touchées par différentes conséquences du climat et qu'il est vraiment important de faire quelque chose et très vite. des conséquences économiques, non seulement des problèmes dus à la migration d'habitants ou de régions où s'adapter est impossible à cause de diverses raisons.
Il y a aussi des gouvernements qui ne voient pas le réchauffement climatique comme une chose sérieuse, comme par exemple les États-Unis, durant les 4 dernières années, avec le président Trump qui n'y croyait pas et par conséquent ne faisait rien pour aider les régions comme la Floride et leurs feux de forêt.
Merci de nous avoir écoutés et maintenant une musique du groupe Daft Punk, One More Time.
À bientôt. One more time.
Merci Kinan et son groupe pour cette présentation. Sans plus attendre, nous allons passer à la seconde thématique. Julio, Louise, Alicia avec un I et Alicia avec un Y ont fait de nombreuses recherches sur les avantages que pourrait présenter le réchauffement climatique. Par exemple, ils ont découvert des avantages maritimes. Je ne vous en dis pas trop et je laisse ma place à la présentation.
Merci de nous recevoir. Après toutes ces informations plutôt catastrophiques, nous avons décidé d'investiguer pour savoir si le réchauffement climatique pouvait quand même avoir des avantages. Et nous avons réussi à trouver quelques points intéressants qu'on va vous expliquer tout de suite.
Donc comme vous pouvez le savoir, l'augmentation des gaz à effet de serre suite aux activités de l'homme bloque une partie de ce rayonnement, ce qui provoque une hausse de la température. Et c'est la cause principale du réchauffement climatique observé ces dernières décennies. Mais il y a aussi quelques avantages qu'on a pu observer grâce au réchauffement climatique.
Alors oui, la hausse des températures va réchauffer l'atmosphère, mais en plus va entraîner la fonte des glaciers. Mais d'un autre côté, la hausse des températures qu'on voit sur Terre va rendre des régions proches des pôles plus accueillantes, car il fera moins froid. Parce que les régions proches des pôles sont les plus touchées par le réchauffement climatique.
En conséquence de la fin de la banquise, il aura des nouveaux passages maritimes. C'est-à-dire que la glace libère plantant certains ports de la mer Baltique et de l'océan Arctique. Donc la disparition de la banquise ouvrira les passages du nord-ouest à la navigation maritime.
Ah, mais il y a un vrai avantage alors ?
Oui, car on sait que le passage entre Londres et Tokyo serait raccourci, donc ça baisserait beaucoup la durée et le coût du transport maritime, puisqu'il faut une quantité de carburant très importante pour faire ces longs voyages. Et du coup, ils vont beaucoup polluer durant leur trajet, donc cela représente un véritable enjeu économique.
Mais vont-ils passer gratuitement ?
Non, car par exemple, pour le chemin de Tokyo et Londres, ils vont devoir demander l'autorisation à la Russie pour passer dans leur mer. Ça ne va pas être gratuit. Et ils vont aussi devoir acheter un brise-glace. Mais ces passages sont très dangereux, donc les personnes qui vont y passer vont devoir acheter des assurances dont le prix va être extrêmement élevé. Et ils vont se demander si ça vaut la peine d'y aller.
Cette nouvelle voie maritime n'est pas le seul avantage. On trouve aussi de nouvelles terres dans les pays du Sud grâce à l'évaporation de l'eau, comme par exemple en Russie ou en Sibérie. Ces régions pourraient devenir productives grâce au réchauffement global.
Oui, mais attention, même si toutes ces nouvelles terres peuvent nous aider, le sol en Arctique et dans les territoires des alentours est très pauvre et la quantité de rayonnement solaire qui atteint le sol en été ne changera pas puisqu'elle est décidée par l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Donc toutes ces nouvelles terres ne seront sûrement pas aptes à être cultivées, mais elles pourront être utilisées pour d'autres choses.
L'agriculture aide le changement climatique à diminuer car les champs peuvent stocker beaucoup de gaz carbonique grâce aux techniques qu'on a trouvées pour conserver le sol.
Alors bien sûr, il y a des nouvelles techniques qui ont été trouvées qui peuvent nous arranger. Mais il y a aussi de la dégradation de les terres, la destruction des récoltes, la destruction des terres fertiles et les incendies causés à cause de la sécheresse.
Maintenant, parlons d'un tout autre sujet, les animaux. Les animaux à sang chaud auront un avantage, car le sang chaud permet de réguler sa température corporelle et de s'adapter au changement climatique.
Et d'ailleurs, de nouvelles recherches suggèrent que les oiseaux et les mammifères ont depuis des millions d'années surpassé les amphibiens et les reptiles, plus particulièrement en s'adaptant plus facilement au changement des températures. Mais il y a beaucoup d'animaux qui sont en voie de disparition ou qui ont déjà disparu. Par contre, il y a plus d'animaux qui vont disparaître que d'animaux qui vont pouvoir vivre avec le réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique devrait aussi entraîner une réduction des maladies liées au climat froid, par exemple l'engélure, le rhume et encore plein d'autres. Par conséquent, le coût des médicaments et d'autres hospitalisations vont réduire.
Ensuite, on va vous parler de quelque chose qui nous arrange tous, la baisse de la facture de chauffage. Comme il fait plus chaud, on aura moins besoin de chauffer nos maisons, donc on réduira l'utilisation du chauffage à la maison.
Pour finir, nous allons évoquer encore quelques conséquences positives que les humains pourraient découvrir grâce au réchauffement climatique, comme la découverte des nouvelles ressources énergétiques, recyclables ou pas, ou encore le développement du tourisme dans certaines régions du monde.
Donc comme vous pouvez le voir, à chaque avantage, il y a un désavantage ou même plusieurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut maintenant utiliser des nouvelles voies maritimes, que certaines terres vont devenir agréables, qu'on peut utiliser le sol pour stocker le gaz carbonique et encore d'autres choses. Mais attention, il ne faut pas oublier que ce sont que quelques avantages parmi tous ces désavantages et qu'on a encore un long chemin à parcourir avant que le réchauffement climatique ne soit plus une menace. Et maintenant, nous allons écouter Walking on Sunshine.
Merci au groupe d'Alicia pour toutes ces informations. Nous allons partir en vitesse sur la troisième thématique qui s'intéressera au futur destin des régions chaudes. En effet, nous savons qu'il y aura une augmentation de 45% des victimes de canicule. Nous allons tout de suite entendre ce que ce groupe a à nous dire. C'est le groupe d'Amy, Alexandre, Chloé et Jérémy qui nous présentera ce thème.
Bonjour à tous. Moi, c'est Alexandre. Merci Léonard et Emmanuel de votre invitation. Effectivement, nous allons parler du futur des régions chaudes. Nous allons surtout parler de la situation de l'Afrique, et elle est plutôt tragique.
Moi, c'est Amy, et je demande, les régions froides ne sont-elles pas plus touchées par le réchauffement ?
Moi, c'est Chloé. Merci pour cette question. Quand on dit changement climatique, on pense souvent à réchauffement des zones polaires. Mais les zones chaudes sont aussi touchées par le réchauffement, et c'est de ça dont nous allons parler.
Et je suis Jérémy. D'ailleurs, une nouvelle étude dont malheureusement nous ne connaissons pas l'auteur attire l'attention. En l'absence de réduction drastique des émissions de CO2, 3 personnes sur 4 pourraient être victimes de vagues de chaleur meurtrières d'ici l'an 2100. Les vagues de chaleur extrêmes sont un phénomène très fréquent, mais cela peut devenir catastrophique.
Néanmoins, une étude de nature Climate Change explique qu'une personne sur 2 sera touchée selon un nouveau sondage, dont l'auteur n'est pas indiqué. 30% de la population mondiale est actuellement exposée à des vagues de chaleur, extrêmes d'environ 20 jours par an.
Waouh, 30%, mais c'est déjà énorme.
Ce qui veut dire qu'il y aura une augmentation de 45% de victimes de canicule dans les 8 ans de prochaines années ?
Exactement, et ça fait peur.
Les canicules dangereuses sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Des gens dans plus de 60 régions sur Terre meurent chaque année dues à une canicule.
Ces canicules ont un impact sur nous, mais pourraient-elles avoir un impact sur les paysages et la végétation ?
Oui, et d'ici 30 ans, les amas de chaleur auront doublé et la température moyenne mondiale aura grandi. Une aggravation qui aura un impact sur la végétation, les mers, les océans, les paysages et les animaux, et bien d'autres choses encore.
Depuis les apparitions de ces vagues de chaleur à répétition, des hausses de température ont atteint des records. Au cours de l'été en Inde et au Pakistan, des températures ont atteint 53,5 degrés.
53 degrés ? Ça va être horriblement dur à vivre.
Avec des températures pareilles, on imagine qu'il ne sera plus possible de cultiver certaines espèces de plantes.
La famine est déjà énormément présente dans le monde actuel. Mais les températures continuent à monter pareillement, ce serait une catastrophe. Car la culture serait bien plus compliquée.
Chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de faim et de maladies qu'ils ne peuvent pas battre à cause de leur faiblesse due à leur manque de nourriture. On pense qu'environ 854 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde et que la hausse des prix de la nourriture risque de mettre 100 millions de personnes de plus dans la pauvreté et la faim.
En plus de l'augmentation des prix, il y aura une hausse de population. Les 4 pays les plus touchés par la famine, par la sécheresse, qui donc ne peuvent pas récolter et qui du coup sont touchés par la famine, sont les suivants. Le Yémen, le Nigeria, le Soudan du Sud et la Somalie.
Pour nourrir les 9 milliards d'habitants de la planète prévue pour les décennies à venir, un régime mondial s'impose. De plus, les récoltes de certaines régions sont plus que menacées par le réchauffement climatique.
On va aussi vous parler d'un deuxième danger qui affecte notre Terre, qui risque de devenir de pire en pire à cause du changement climatique, les ouragans.
Comme ça, souvent avec la science du climat, la réponse n'est pas très claire. Mais beaucoup de chercheurs estiment que les ouragans s'aggravent et se renforcent à mesure que la planète se réchauffe. L'ouragan Irène leur paraissait comme un avant-goût de cette théorie.
Car les ouragans sont approvisionnés par l'humidité des océans, ils perdent généralement en puissance assez brièvement après avoir touché terre. Mais avec le réchauffement climatique, la donne pourrait changer. Dorénavant, des populations jusqu'alors protégées pourraient être rudement touchées.
Nous avons pris nos informations des sites nationalgeographic.fr
et lemonde.fr.
En conclusion, nous vous rappelons de bien faire attention à la planète pour essayer de sauver ces régions chaudes. Nous vous quittons sur ce magnifique titre For the Night de Pop Smoke.
Tell you times, yeah. I'm a thief for the night. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Look, if I call you babe, you babe for the day, or babe for the night. You not my wife. She wanna kill her, so fuck all night. I wanna fuck on a thigh,
give me head on nine. AP, big rocks, in the hood with the realest. 5K on a dinner, bring 300,000 to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night.
I'm rich but I'm riding, I'm low on exotic. I'm about to fly out and go get me some. Nothing ain't sweet, all this money on me. 100 racks in the bag, that's 100 bun. Baby OG, I've been running these streets. Got a game from LeSean on my mama's son. Learned about the triple cross when I was young and I know I ain't.
Merci au groupe d'Emmy de cette présentation. Et nous fonçons déjà vers la quatrième chronique présentée par Amaya, Elise, Chiara et Danica. Elles vont nous parler de cartographie. En effet, on parle souvent de la montée des eaux aux infos et la question qui se pose naturellement est « Faudra-t-il effacer certaines localités des cartes ?» Je leur laisse tout de suite la parole.
Merci aux animateurs et bonjour à tous. Nous allons commencer par la thématique de la montée des eaux.
Mais Lise, c'est quoi en fait la montée des eaux ?
C'est très simple. En gros, c'est juste l'élévation du niveau de la mer en conséquence du réchauffement climatique. Il y a deux causes principales, la dilatation de l'eau et la fonte des glaces terrestres. Si vous voulez, la dilatation de l'eau, c'est l'augmentation du volume de l'eau à cause de la température qui augmente.
Ah mais oui, j'ai entendu hier à la radio que la Terre a perdu autour des 28 000 milliards de tonnes de glace en 23 ans.
Waouh, 28 000 milliards ! C'est vraiment énorme ! Pour revenir à notre sujet, la montée des eaux est inévitable. Il faut vraiment être préparé. Quoi que nous fassions, les choses deviennent encore plus sombres. Le niveau de la mer augmente plus vite et plus haut que prévu.
Mais du coup, beaucoup de personnes seront touchées, non ?
Eh oui, quelque 824 millions de personnes touchées d'ici 2030 et 1,2 milliard d'ici 2060 seraient touchées par cette élévation du niveau de la mer. Les 5 pays les plus touchés se trouvent tous en Asie, comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie et le Vietnam.
Les Maldives sont aussi très atteintes, avec plus de 80% de leur terre à 1 mètre au-dessus de la mer. Elles sont situées dans l'océan Indien. Cette île est constituée de beaucoup d'hôtels luxueux qui sont même sous la mer. Du coup, les Maldives sont lentement envahies par les eaux et le pays pourrait être complètement enseveli d'ici 2100.
Du coup, le Bangladesh est également l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les personnes qui vivent près des côtes sont régulièrement confrontés aux inondations, sécheresses et autres catastrophes, ce qui entraînera plusieurs conséquences sociales, économiques et environnementales.
Les gens touchés par ces dégâts du changement climatique devront quitter leurs terres et migreront vers le centre des terres. Ça pourrait créer une surpopulation des pays qui devront accueillir ces personnes.
Une conséquence est économique. Les gens des pays pauvres migreraient souvent vers d'autres pays pour trouver un travail. Mais les gens de ces régions seraient la plupart du temps contre, car ils ne voudraient pas perdre leur emploi.
La deuxième conséquence est sociale. Les gens de ce pays devront peut-être rentrer en guerre parce que les terres se rétrécissent. Et moins il y aura de place pour vivre, plus les gens se battront pour leur territoire.
L'association OIM, OIM qui signifie Organisation Internationale des Migrations, essaye de faciliter les migrations.
Et oui, la troisième conséquence est environnementale. Et elle touche particulièrement les coraux.
Attendez, quoi ? Des corps dans l'eau ?
Ah, quel humour, Danica ! Mais non, les coraux sont des animaux qui sont des constructeurs de récifs ayant un squelette dur ou mou qui font partie des colonies polypes. En gros, ça a l'air compliqué à comprendre, mais polypes, ça veut dire qu'ils se trouvent proches des fonds marins.
Du coup, les endroits où les populations humaines dépendent beaucoup des récifs coralliens seront ceux qui vont subir le plus de conséquences endommageant les coraux.
Mais du coup, ça sera quoi la conséquence environnementale ?
Les deux conséquences principales seront leur blanchissement du corps et l'acidification des océans.
Ah, ok. Et si jamais, l'acidification des océans, ça veut dire qu'ils deviennent de plus en plus acides. Pour calculer cette acidité, on utilise le pH.
En plus, 25% des espèces animales dépendent des coraux. Et s'ils meurent, un quart des êtres vivants marins aussi.
Alors, quelles sont les solutions pour éviter cette destruction ?
Les émissions de CO2 doivent être réduites pour que la courbe du réchauffement climatique s'inverse, donc en fait qu'elle descende.
Pour ça, il faudra l'aide de la politique, mais aussi de la nôtre. Par exemple, moins voyager et moins consommer. Mais il faut aussi arrêter la déforestation et changer nos habitudes de tous les jours.
Donc en gros, si le niveau de la mer augmentera, ça va créer des catastrophes comme des inondations qui vont détruire les espaces de vie. Et les gens devront migrer, ce qui entraînera des conflits entre les gens qui accueillent et ceux qui migrent.
Et en plus, tout ça va renforcer la pollution des océans et la destruction de l'écosystème marin.
Pour conclure, si on ne décide pas de faire quelque chose maintenant, notre futur va commencer à se compliquer. Certaines îles vont disparaître et il faudra essayer de protéger et sauver les personnes les plus touchées.
Nous démolissons notre planète, même nos fonds marins. Il faut absolument stopper cette destruction avant qu'il ne soit trop tard.
Si jamais, nous avons trouvé ces informations sur les sites Wikipédia, Futurascience, Geo.fr, Cairninfo et Reporters.net.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On compte sur vous pour sauver notre planète. À bientôt, sauf si on se fait ensevelir par l'eau.
Imaginez, on ne pourrait même plus chanter cette magnifique chanson, les Sunlight des Tropiques.
Avec toutes ces chroniques intéressantes, je suis prêt à devenir prof. Ou presque. Il nous manque encore un élément. La cinquième et dernière thématique, présentée par Zéa de Prado et ses experts. Ils se sont intéressés au fait que les phénomènes climatiques extrêmes, tels que la canicule, pourraient bien devenir la norme. On remarque déjà une diminution de 30% des précipitations. Maintenant, je les laisse parler.
Bonjour à tous, et merci à Léonard pour cette brève introduction. Je suis aujourd'hui en compagnie de deux expertes climatiques, Lucie Weber.
Bonjour à tous.
Et la deuxième experte, Chloé Bucher.
Bonjour, nous allons donc parler des canicules et sécheresses qui touchent la Suisse, et qui sont de plus en plus récurrentes. En 2003, plus de 1000 décès ont été enregistrés rien qu'en Suisse.
Nous serons également accompagnés de Nick Timmerman, à qui nous donnons aujourd'hui la parole, pour qu'il puisse s'exprimer sur le sujet, car il ne croit pas du tout au réchauffement de la planète.
Effectivement, je ne crois pas à cette histoire de réchauffement climatique. Je pense que c'est un mensonge du gouvernement pour nous faire peur, donc je me considère comme un climato-sceptique.
Oui, justement, cette chronique est faite pour que vous puissiez vous exprimer. Commençons par... J'aimerais savoir comment se forme une canicule.
Elle est déterminée par deux paramètres, les fortes chaleurs et la durée.
Qu'est-ce que vous entendez par forte chaleur ?
Au moins 20 degrés la nuit et 35 degrés le jour pendant 3 jours d'affilée.
J'ai lu que sur ces 20 dernières années, il n'y a eu que 3 canicules. Autant dire que ce n'est rien du tout.
C'est déjà beaucoup trop. Pendant une canicule, toute la nature souffre de la sécheresse qui touche même les êtres humains sous forme de pénurie d'eau et de coups de chaleur. On a vu des lacs asséchés en plein été, des glaciers millénaires fondre et des arbres chuter par manque d'eau.
Cela a toujours existé. C'est triste, mais sans lien avec un quelconque réchauffement.
Alors, comment expliquez-vous toutes ces canicules ?
Je dirais qu'au cours de chaque période interglaciaire, on a pu observer un réchauffement global de la température mondiale.
Un réchauffement certes, mais moins rapide. Et surtout, il était autrefois subi par bien moins d'êtres humains qu'aujourd'hui. De nos jours, nous sommes plus à polluer, donc nous pouvons conclure que c'est aussi à cause de nous.
Pour clarifier les choses, qui sont les plus touchés par ces fortes chaleurs ?
Les personnes âgées, les femmes enceintes et les jeunes enfants qui risquent un coup de chaleur ou un AVC. Les paysans sont touchés par des pénuries d'eau et ont beaucoup de peine à nourrir le bétail. Ils perdent également beaucoup d'argent.
Seuls les humains sont touchés ?
Non, parmi les animaux les plus touchés, on retrouve les poissons qui perdent pendant une partie de l'été leurs habitations et leur nourriture. Les mammifères perdent également leurs ressources en eau et les oiseaux peinent à trouver de la nourriture.
Monsieur Tirmarman, avez-vous quelque chose à rajouter?
Je dirais que dans le passé, les populations ont dû s'adapter pour survivre et nous devrions faire de même. Par exemple, l'habitude de vivre plutôt le soir, pendant l'été, ou en investissant dans des moyens d'acheminer l'eau.
C'est une idée intéressante, je dois bien l'avouer. Pourrions-nous parler des conséquences de ces canicules?
Les principales conséquences sont les champs asséchés, les décès qui deviennent plus fréquents et les animaux qui n'ont plus assez à manger.
Quel est le rapport entre la nourriture et la canicule?
Quand il fait chaud, les plantes n'ont plus assez d'eau.
Je me permets de vous couper car il me semble qu'il y a assez d'eau dans les lacs pour qu'on n'en manque pas.
En effet, il y en a assez.
Alors pourquoi nous ne prenons pas l'eau des lacs pour pouvoir arroser les plantes?
Car si nous en puisons une trop grande quantité, la faune aquatique risque de beaucoup souffrir. De plus, cela coûterait très cher et les infrastructures manquent. On voit donc qu'il y a aussi des conséquences économiques lors des canicules.
J'ajouterais qu'après une canicule, arrive souvent un orage violent. À Lausanne, il y a 2 ans, les gares de métro étaient littéralement sous l'eau. Mais il y a pire, comme des glissements de terrain. Chacun de ces événements coûte plusieurs millions de francs.
Face à tous ces événements affreux, que fait l'État?
C'est lui qui reloge les habitants après une catastrophe et qui aide financièrement les paysans.
Il finance aussi des aménagements pour acheminer l'eau en hauteur, ce qui est déjà bien. Mais comme je l'ai dit, il en faudra plus.
En Suisse, chaque année, les communes prennent des mesures pour pallier au manque d'eau, en interdisant par exemple de remplir sa piscine ou d'arroser.
Je me souviens d'un été sans piscine, quel cauchemar.
Cela peut paraître drôle, mais quand des milliers de personnes perdent tout à cause d'un feu de forêt gigantesque, on ne peut plus en rire.
Ah oui, comme l'année dernière en Australie. Alors, comment pourrions-nous éviter toutes ces canicules?
Il faut déjà agir, nous, en tant que citoyens, en utilisant moins d'énergie. L'État doit aussi se responsabiliser et coopérer au niveau international.
Je vous propose donc de finir sur ces bonnes idées. Je remercie nos deux expertes pour le temps qu'elles ont accordé, ainsi que M. Timmerman qui a bien défendu son opinion.
Merci à vous d'avoir co-débattu avec nous. Pour notre chronique, nous avons utilisé le site gouvernement.fr, le journal Le Temps, ainsi que nos ouvrages de référence.
C'était un plaisir de défendre mon opinion avec vous.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette chronique vous a sensibilisé sur l'importance de l'écologie.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec notre musique, L'ours de Christophe Maé.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Qu'un torah à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des fois venues d'Afrique.
À tout le monde, c'est des nains. Africa, de plein bolo. Oui, un petit temps.
Seul sous ma grande ours. Aujourd'hui, je donne pas cher de ma peau à la bourse. Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure. C'est plus le grand froid chez moi, mais n'est plus d'hiver. Et elle s'enlève pas, moi, ma poulère.
À travers tous ces thèmes intéressants, on a vu beaucoup de points essentiels à mes yeux. Des gens qui n'ont pas le choix de s'adapter aux conditions climatiques de leur pays, car il est trop tard pour retourner à la situation, les morts dues à la canicule qui augmentent, des inondations et une montée des eaux apparemment inarrêtable, ainsi que la canicule qui pourrait bien devenir la norme. Heureusement que le groupe de Julio a réussi à trouver quelques avantages. Je pense que tout le monde devrait avoir ces points en tête quand ils vont en vacances. Plutôt choisir le train, l'avion ou la voiture, ou penser à toutes ces personnes qui fuient leur pays qui est devenu inhabitable. L'homme pense mieux sous stress, et c'est une malédiction. car maintenant qu'il est presque trop tard, on commence seulement à agir.
On sait qu'il existe certaines solutions. On en parlera éventuellement dans une prochaine émission. Si vous voulez éviter un réchauffement climatique à grande échelle, économiser de l'eau chaude ou installer des panneaux solaires photovoltaïques. Merci de nous avoir écoutés si nombreux. Je souhaite une bonne journée à tous les auditeurs. Et n'oubliez pas, la Terre se réchauffe à vitesse grand V. Il est de notre devoir à tous de faire quelque chose.
Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.